Audiolib présente La femme au miroir d'Éric Emmanuel Schmitt. Lue par Cachou Kirsch, Marianne Épin, Nathalie Hugo et Valérie Lemaître. Pour Bruno Metzger. Chapitre 1. Je me sens différente, murmura-t-elle. Personne ne prêtait attention à ces mots. Tandis que les matrones s'agitaient autour d'elle, celle-ci arrangeant un voile, celle-là une tresse, cette autre un ruban, alors que la mercière raccourcissait son jupon et que la veuve de l'arpenteur lui enfilait des chaussons brodés, la jeune fille immobile avait l'impression de devenir un objet. Un objet passionnant, certes, assez affriolant pour mobiliser la vigilance des voisines, un simple objet cependant. Anne contempla le rayon de soleil qui, jailli de la fenêtre trapue, traversait la pièce en oblique. Elle sourit. La mansarde, dont ce jet d'or trouait la pénombre, ressemblait à un sous-bois surpris par l'aube, où les paniers de linge remplaçaient les fougères, les femmes, les biches. Malgré les bavardages incessants, Anne écoutait le silence voler dans la chambre. Un silence étrange, paisible, touffu, lequel venait de loin et délivrait un message sous les jacasseries des commères. Anne tourna la tête, en espérant qu'une des bourgeoises l'avait entendue, mais elle n'attrapa aucun regard. Condamnée à subir leurs obsessions décoratives, elle douta d'avoir bien prononcé cette phrase. Je me sens différente. Que pouvait-elle ajouter? Elle allait se marier tout à l'heure. Pourtant, depuis son éveil, elle n'était sensible qu'au printemps qui déboutonnait les fleurs. La nature l'attirait davantage que son fiancé. Anne devinait que le bonheur se cachait dehors, derrière un arbre, tel un lapin. Elle voyait le bout de son nez, elle percevait sa présence, son invite, son impatience. En ses membres, elle éprouvait une démangeaison de courir, de rouler dans l'herbe, d'embrasser les troncs, d'inspirer à pleine poitrine l'air poudré de pollen. Pour elle, l'événement du moment, c'était le jour lui-même, frais, éblouissant, généreux, non ses épousailles. Ce qui lui arrivait, s'unir à Philippe, s'avérait dérisoire par rapport à cette splendeur. Avril qui affermit champs et forêts, la force nouvelle qui épanouit coucou, prime vert, chardon bleu. Elle désirait fuir ce réduit où se déroulait la préparation nuptiale, s'arracher aux mains qui la rendaient plus jolie et se jeter nue dans la rivière si proche. À l'opposé de la croisée, le faisceau de lumière avait accroché en ombre la dentelle du rideau sur la chaux inégale. Anne n'oserait jamais troubler ce fascinant rayon. Non. Lui annoncerait-on que la maison brûlait, elle resterait figée sur ce tabouret. Elle frémit. « Que dis-tu ? » demanda sa cousine Ida. « Rien. Tu rêves de lui, c'est ça ?» Anne baissa le front. La future mariée confirmant ses soupçons, Ida éclata d'un rire aigu, farci de pensées lubriques. Ces dernières semaines, elle luttait contre sa jalousie, et n'y parvenait qu'en la convertissant en moquerie aigriarde. Anne se croit déjà dans les bras de son Philippe, proclama-t-elle d'une voix oppressée à la cantonade. La nuit de noces va être chaude. Moi, je ne voudrais pas être leur matelas ce soir. Les femmes grognèrent, les unes pour donner raison à Anne, les autres pour stigmatiser la trivialité d'Ida. Soudain, la porte s'ouvrit. Majestueuse, théâtrale, les tantes et la grand-mère d'Anne entrèrent. « Tu vas enfin connaître, mon enfant, ce que ton mari verra !» clamèrent-elles en chœur. Comme si elles dégainaient un poignard des plis de leur robe noire, les veuves sortirent deux boîtes en ivoire ciselé qu'elles entrebâillèrent délicatement. Chaque coffret recelait un miroir cerclé d'argent.